8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, c'est le député Aurélien Taché, fondateur du mouvement Nous Demain.
Bienvenue et bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme, vos propos décrivant la polygamie, je cite, comme un mode de vie différent ont suscité une vive indignation. Pensez-vous être encore digne d'être député de la République ?
Je le crois, oui. Vous savez, être député de la République, c'est aussi participer à des débats politiques parfois compliqués. Il m'arrive souvent de le faire, peut-être même plus souvent qu'à mon tour, mais c'est parce que j'ai l'impression aussi parfois d'être l'un des seuls à rappeler mon inquiétude sur la montée du racisme dans ce pays. Et parfois, le propos dépasse la pensée. En l'occurrence, c'était le cas. La polygamie, c'est souvent lié à des mariages forcés. C'est une forme d'obscurantisme.
Souvent ?
C'est un obscurantisme. Il faut le condamner et je n'aurais certainement pas dû faire cette comparaison. Mais pas de faux procès. Pas de faux procès. Moi, j'ai toujours été, tout mon engagement le prouve, du côté du droit des femmes. J'ai fait partie du dernier groupe parlementaire qui vient de faire allonger le délai IVG. J'ai proposé des choses pour que les femmes sans-abri soient mieux prises en compte. J'ai signé les amendements les plus progressistes sur la PMA. Je n'ai aucun procès à recevoir sur cette question. Et sur l'obscurantisme et l'islamisme aussi, j'ai toujours été au rendez-vous, Sonia Mabrouk.
On va en parler, bien sûr, Aurélien Taché. Mais si quelqu'un tient des propos pour faire la promotion de la polygamie, vous seriez indigné, choqué ?
Bien sûr que j'en serais totalement indigné. Encore une fois, tous les obscurantismes doivent être combattus. Vous savez, moi j'ai été en 2013 à Tunis pour soutenir les démocrates en Tunisie, je crois que c'est un pays que vous connaissez bien, contre les là-bas faisaient ce genre de promotion. J'ai dans ma circonscription été participé dans les écoles à de nombreux débats sur la laïcité pour expliquer ce que c'est que la République. Donc encore une fois, je suis inquiet d'une certaine instrumentalisation du droit des femmes ou de la laïcité pour servir des agendas qui peuvent être des agendas xénophobes et je le dénonce avec force, mais on ne pourra pas me prendre en défaut sur ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour moi.
C'est important. Je vous donne un exemple précis. Si Aurélien Taché, lorsque Assa Traoré, demi-sœur d'Adama Traoré, parle de la polygamie de son père, évoquant, je cite, « une expérience formidable ». Elle est libre de le penser, de le dire ?
On est toujours libre de penser de ce qu'on... On est toujours libre de sa pensée. En revanche...
C'est pas faire la promotion de la polygamie,
en
là.
En revanche, l'État, lui, doit être très ferme en disant qu'effectivement, ce type de pratique-là n'a rien à faire dans les lois de la République, quand en République, le mariage, c'est deux personnes, et qu'effectivement, il doit y avoir une égalité des droits qui est préservée. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de propos. En revanche, encore une fois, je le redis, attention, le projet de loi sur le séparatisme, pourquoi j'ai parlé de ça à ce moment-là ? Le projet de loi sur le séparatisme, moi, ma crainte, c'est que finalement, il n'apporte que très peu de réponses en matière de terrorisme et qu'en revanche, il puisse être instrumentalisé dans un contexte de xénophobie.
Mais quelle instrumentalisation ? Parce qu'Aurélien Taché, vous avez parlé de morale, mais quel rapport avec la morale ? Parce que vous avez mis sur le même plan certaines pratiques sexuelles librement consenties entre adultes et la polygamie qui est un asservissement de la femme.
Je vous le redis, cette comparaison était une erreur, très malvenue, je n'aurais pas dû la faire, mais en revanche, allons sur le fond du sujet. Le projet de loi séparatisme, finalement, je pense qu'il n'apportera quasiment aucune réponse en matière de lutte contre le terrorisme, mais par contre qu'il peut, en introduisant tout un tas de dispositions sur l'immigration, en introduisant tout un tas de dispositions sur ces fameuses chartes de la laïcité, être instrumentalisé pour justement désigner certains Français en raison de leur culture ou de leur religion.
Je vous donne un exemple.
Au Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse vient de faire adopter une charte de la laïcité. Tous les élus de gauche ont refusé de la signer, y compris les élus socialistes. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que cette charte de la laïcité n'apportait rien en matière de renforcement de la laïcité.
Donc on ne fait rien.
Non.
Donc parce que vous pensez que le résultat n'est pas atteint, on ne fait rien.
Non, je ne dis pas qu'on ne fait rien. Je dis qu'il faut faire des choses utiles. Quand Olivier Faure dit qu'il faut que les élus aillent dans les écoles parler de laïcité, il a raison, il faut le faire. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, je le referai la semaine prochaine. Mais on ne fait pas, en tout cas, dans la loi, des choses qui peuvent contribuer à un agenda xénophobe.
Pourquoi on fait tout cela ? Parce que derrière tout ce dont on parle depuis le début de cet entretien, il y a la réalité selon laquelle certains placent les pratiques et les lois religieuses devant les lois de la République dans notre pays. Est-ce que c'est un phénomène qui ne vous inquiète.
Mais bien sûr que c'est inquiétant, mais vous savez comme moi que quand on est croyant, on a toujours cette contradiction entre les lois finalement, les croyances qu'on a et la loi de la République. Simplement, il faut être très clair dans sa vie de citoyen, la loi de la République s'impose et doit être appliquée. Donc moi je n'ai aucune espèce
Pourquoi
de difficulté
quand on est croyant, on a cette dichotomie ? Non, quand on est croyant dans un pays comme la France, les lois de la République priment.
Les lois de la République priment toujours dans votre vie de citoyen, dans votre vie civile. Mais vous pouvez, quand vous posez cette question à quelqu'un, quelqu'un finalement l'interroger aussi sur sa propre foi. Donc il va vous dire, moi j'ai ma foi, mais en tant que citoyen républicain, et l'immense majorité de nos concitoyens musulmans sont dans cette logique-là, on respecte les lois de la République. En revanche, je le redis, ce genre de loi-là n'apportera rien de supplémentaire à la laïcité, qui est déjà très bien encadrée dans notre pays, et peut participer à cet agenda.
Monsieur
moi,
Taché,
cette montée du racisme, elle me préoccupe.
Attendez, on ne parle pas de racisme. Selon un sondage IFOP, une majorité de Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam avant la République. Ça vous paraît marginal, la majorité ?
Ça ne me paraît pas marginal. Je dis simplement qu'encore une fois, tant que les lois de la République sont respectées, et c'est ce que fait l'immense majorité de nos concitoyens musulmans, parce que vous n'avez pas 40% de nos concitoyens qui ne respectent pas les lois de la République. Si je reprends votre question, d'accord, on a cette étude-là.
C'est un sondage que je vous cite.
Oui, mais dans les faits, ils respectent les lois de la République, tous ces gens-là. Donc je ne vois pas pourquoi on viendrait rajouter des choses
dans la loi là-dessus. Parce qu'il y a l'islam politique, monsieur Taché, parce que certains disent qu'il y a un lien de causalité entre remise en cause des principes de républicains et une imprégnation islamiste chez une partie de la population.
Eh bien, moi, je ne crois pas. Je crois que pour faire reculer le terrorisme, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Bien souvent, les gens qui sont dans une rupture par rapport au terrorisme sont des gens qui finalement se disent quoi ? Nous vont peu à la mosquée, ont peu d'éducation religieuse et qui finalement sur Internet voient des choses et se disent ah voilà, moi tu me prends pour un loser, eh bien, je ne vais pas être un. J'en suis pas un, je vais aller me réaliser dans une aventure funeste et obscure comme celle du terrorisme. Donc ça révèle des fractures bien plus profondes. Et encore une fois, je ne vois rien dans le projet de loi actuel ou dans la politique du gouvernement pour vraiment lutter contre cette radicalisation. Et je ne vois rien non plus pour lutter contre le climat xénophobe qui est
Pourquoi
en train de progresser.
Pourquoi vous ne voyez rien ? Certains disent que c'est un aveuglement. Quand vous dites, par exemple, monsieur Taché, les religions, mais pardonnez-moi, les juifs, depuis toujours, l'affirment haut et fort, la loi de l'État, force de loi.
Mais bien
d'abord
sûr.
Et avant tout. Vous dites les religions.
Toutes les religions, enfin, dans la pratique, Madame Mabrouk, aujourd'hui au quotidien, toutes les religions finalement acceptent cela. On ne va quand même pas dire qu'une immense majorité de nos concitoyens musulmans ne sont pas respectueux de l'héros de la République. C'est pas ce qu'on constate tous les jours dans les faits. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne manière de faire. Et moi, je vous le redis, ceux qui instrumentalisent ces questions de laïcité, et ils sont nombreux.
Mais qui sont ceux qui instrumentalisent? Nommez-les, pointez-les, dénoncez-les.
J'ai parlé de Valérie Pécresse à la région de
France. Valérie Pécresse instrumentalise la laïcité.
Quand elle fait une charte de la laïcité que toute la gauche refuse de voter, uniquement pour faire plaisir à Sens Commun et à des gens qui justement dans sa majorité Sens Commun, c'est ce mouvement contre le mariage pour tous, eux n'ont pas eu de problème à aller manifester aux côtés des frères musulmans, c'est ce qu'elle fait. Donc moi je suis très inquiet de ça, je vois les dégâts du racisme tous les jours dans ce pays et on ne fera pas l'économie de ce débat-là.
Et vous, monsieur Taché, auprès de qui vous manifestez ?
Moi je n'ai été manifesté que dans des manifestations tout à fait classiques. Vous
Lesquelles,
savez,
par exemple eh bien, est-ce que vous avez manifesté lors de la manifestation
non,
contre l'islamophobie ?
Non, je n'ai pas été manifesté à ce moment-là parce que je pense qu'effectivement il ne faut pas que ces débats soient pris en otage par des gens qui ont d'autres opinions que nous. Moi, je suis contre tous les obscurantismes. Et donc, quand il y a des islamistes dans une manifestation, je n'y vais pas. Mais je le redis, nous ne nous battons pas assez à gauche et on ne fera pas l'économie sur cette question du racisme, finalement,
des pays musulmans.
De mener un véritable combat. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est extrêmement important parce que...
Et nous allons continuer à en parler. Mais des pays musulmans et la presse anglo-saxonne dénoncent la politique d'Emmanuel Macron qualifiée de politique anti-musulman. Ils ont tort ?
Je ne dis pas que Emmanuel Macron mène une politique anti-musulman. Je dis qu'en revanche, il est très faible sur la politique antiraciste. Emmanuel Macron, c'est le seul chef d'État qui n'a pas prononcé le mot de George Floyd. Emmanuel Macron, il était très attendu sur la question des discriminations. Il a fait un grand discours au Mureau où il y avait une deuxième partie qui concernait le racisme. On attend toujours la grande loi sur les discriminations. On attend toujours dans le plan de relance des moyens pour le logement social.
C'est ambigu. Je vous parle de lutte contre l'islamisme. Vous me répondez racisme. Moi, je repose ma question. Est-ce qu'il y a, selon vous, une islamophobie organisée en France ?
Non, je ne pense pas ça, mais je pense qu'en revanche, il y a un climat raciste qui est facilité par tout ce qu'on entend souvent sur des chaînes de télé, par ce qu'on entend par certains responsables politiques qui instrumentalisent en permanence finalement ce climat en disant peut-être même parfois qu'il faut aller jusqu'à tirer sur nos concitoyens français ou musulmans. On entend ce genre de choses sur les plateaux télé et personne ne réagit. Qui mène la bataille ? Moi, j'y vais. Peut-être parfois trop souvent, peut-être parfois même en ayant des propos qui dépassent ma pensée, mais parce que je suis inquiet. Encore une fois,
on
tous ces Français
entend, vous
qui
dites...
se sentent stigmatisés, ils n'iront plus voter.
Vous dites pas
face à Marine Le Pen, parce qu'ils ont l'impression que plus personne ne les défend et que ça ne vaut plus le coup d'aller voter. C'était pourtant pour ça qu'Emmanuel Macron avait été élu.
Monsieur Taché, vous dites pas d'islamophobie. Pourtant, en septembre dernier, dans l'Express, pas d'islamophobie organisée, j'entends, vous avez dit, il y a un racisme anti-musulman chez les élites. Donc il y a, selon vous, une islamophobie institutionnalisée chez les élites.
C'est pas la même chose, l'islamophobie et le racisme anti-musulman.
Alors vous allez m'expliquer la nuance, parce qu'elle est ténue.
Oui, l'islamophobie, ça pourrait donner l'impression qu'on interdit toute critique de l'islam. On doit pouvoir critiquer l'islam comme toutes les religions. En revanche, revanche, qu'aujourd'hui, le musulman soit souvent vu comme la nouvelle figure de l'immigré arabe ou noir, comme on le considérait il y a 20 ou 30 ans, c'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui démontre qu'effectivement, quand on est jugé comme étant de culture musulmane ou immigré maghrébin, on est 8 fois plus contrôlé par un policier. Ce n'est pas moi qui dit qu'effectivement, il faut envoyer 8 fois plus de CV. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Je vous assure que c'est quelque chose sur laquelle la génération actuelle ne fera pas l'impasse.
Allons plus loin dans votre analyse de dénonciation du racisme anti-musulman, comme vous l'appelez. La jeune Mila, constamment menacée pour ses vidéos polémiques sur l'islam, c'est du racisme anti-musulman?
Ce n'est absolument pas du racisme anti-musulman. Elle a parlé d'Allah, de Dieu, donc effectivement, elle est bien dans une critique de l'islam, virulente, avec son jeune âge, avec des propos forts, et elle en a bien le droit, et il faut être absolument
et
derrière cette jeune fille. Le racisme anti-musulman...
Non,
moi,
est-ce que vous la soutenez?
Bien sûr que je la soutiens.
Qui la menace, selon vous?
Parfaitement. Des islamistes, contre lesquels il faut lutter. Mais est-ce que parce qu'il faut lutter contre les islamistes, on doit finalement abdiquer sur les discriminations dont je parlais juste avant? Est-ce qu'on doit finalement se dire qu'il suffit de condamner comme ça, de manière un peu symbolique, le racisme pour ces jeunes gens qui, dont les parents sont, ou les grands-parents sont venus en France et qui continuent de me dire chaque jour dans ma circonscription, je vais partir, monsieur Taché. J'irai au Canada, en Angleterre, je vais partir parce que la France ne veut pas de moi.
Qui abdique, selon vous? Où sont les nouvelles féministes ou militants homosexuels qui passent plus de temps à défendre le voile, le CCIF, que Mila?
Mais ça, je le regrette profondément. Encore une fois, il n'y a pas à défendre le CCIF ou qui que ce soit, en l'occurrence. Mais oui, qu'elle soutienne Mila, qu'elle soutienne aussi les jeunes femmes qui, parce qu'elles portent un voile, se font attaquer, qu'on traite d'islamistes politiques alors qu'elles peuvent avoir juste fait le choix de porter un voile dans leur expression religieuse. Moi, je ne choisis pas. Je défends Mila, je défends Mariam Pouchetou, je défends toutes les femmes, quel que soit finalement le choix qu'elles font.
C'est vrai que vous ne choisissez pas. Vous avez comparé le voile islamique à un serre-tête. C'est ce qui s'appelle du relativisme culturel.
Oui, bah écoutez, ça fait partie de ces moments où je vous dis que dans des débats passionnés, on peut avoir son propos qui dépasse sa pensée.
Vous avez encore dépassé le cadre. Vous allez revenir sur vos propos ce matin?
Je le reconnais. Écoutez, ça fait 2 fois et je crois que ça suffira.
Peut-être une troisième. Quand le gouvernement a pris des mesures à l'encontre d'une famille originaire de Bosnie, en séquestré et tondu une jeune femme musulmane de 17 ans accusée d'être éprise d'un jeune serbe chrétien, vous avez accusé les ministres concernés de remettre une pièce dans le jukebox de la haine anti-musulman. Vous revenez sur ces propos aussi?
Ce que je voulais dire ce jour-là, c'est que on instrumentalise là aussi une affaire judiciaire terrible. Cette jeune fille a été frappée. Cette jeune fille a subi des choses terribles, mais on en profite pour faire revenir des choses comme la double peine. C'est-à-dire que quand vous êtes étranger, vous devez,
Monsieur
en plus
Taché,
d'être condamné, d'être expulsé.
En quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, c'est un lynchage, c'est être anti-musulman? En quoi?
Parce que vous avez dans cette affaire effectivement quelque chose de terrible qui consistait à avoir des gens qui étaient originaires d'ex-Yougoslavie, une partie de la famille
peu
serbe,
importe,
l'autre partie
lynchage d'une jeune femme. En quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, un lynchage, c'est être anti-musulman? Je ne comprends pas. Ou alors vous laissez entendre que le lynchage fait partie du mode de vie des musulmans?
Absolument pas.
C'est clarifié.
Simplement, encore une fois, ça fait partie de ces moments, ça fait partie de ces sujets où je trouve que
vous avez parlé
trop vite. On prend ces sujets de droits des femmes sans penser à ce qui va arriver à cette jeune fille, en se disant d'ailleurs, on expulse sa famille, tant pis si là-bas la famille se met à frapper d'autres jeunes femmes, et on fait de la politique sur des sujets qui, à mon avis, sont trop sérieux pour être instrumentalisés.
Monsieur Taché, pour conclure, vous allez avoir le courage de démissionner, de vous présenter sous vos propres idées telles que vous les avez énoncées ce matin?
Mais pourquoi je démissionnerai?
Parce
moi,
que vous avez été investi avec La République En Marche et que ce n'est pas sincère.
Oui, mais La République En Marche, elle avait fait beaucoup de promesses sur cette question des inégalités, du racisme, qu'elle n'a pas tenu. Et donc moi, je me présenterai sous les couleurs de mon mouvement Nous Demain si un jour je me représente. D'ailleurs, je fonde un nouveau mouvement politique parce que beaucoup attendaient d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là et n'ont pas finalement ont été extrêmement déçus. Mais ce n'est pas moi qui ai changé de politique. Ce n'est pas moi qui ai fait une loi qui réprime les libertés, différentes lois d'ailleurs qui répriment les libertés. La liberté de la presse, on s'en prend aux étudiants. On affaiblit les anticorps de la République, Madame Mabrouk, en ce moment. Et ça, c'est très grave. Les extrémistes, que ce soit Front National ou islamiste, profiteront de cet affaiblissement des anticorps de la République qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont en train de mettre en place.
Merci d'être venu vous expliquer ce matin sur Europe 1, Aurélien Taché. Et évidemment, on écoute toutes les sensibilités sur notre radio. Merci, bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.